Psaume 37, verset 1 à 6, psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, jusqu'au chapitre 11, verset 1. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.
Joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, qui est en fait pour nous toujours un guide fiable et efficace en toute situation que nous vivons. Et par la grâce de Dieu, je me réjouis ce matin de vous apporter sa parole, puisque c'est la sienne. Et tout en tremblant, c'est vrai aussi, devant cette tâche si importante, et je vous remercie pour vos prières. Continuez à prier toujours pour ceux qui apportent la parole, afin que nous le fassions d'une manière à le glorifier. Le texte de 1 Corinthiens 10, nous avons vu juste la fin de ce passage, est un texte très riche. Et il nous exhorte à ne pas suivre nos désirs. Et si vous avez vos Bibles ouvertes, je vous invite à les avoir ouvertes dans 1 Corinthiens 10. Il y a même une promesse extraordinaire au verset 13, où il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir pour que je puisse la supporter, pour que vous puissiez la supporter. » Donc ça, c'est une promesse que Dieu nous donne. Et durant ce chapitre, si on va un petit peu le lire, on se rend compte que Dieu nous demande de fuir l'idolâtrie pour nous précipiter vers l'adoration de Dieu. Et au verset 1 du chapitre 11 que nous avons entendu, il est dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Fuir l'idolâtrie, c'est chercher à ressembler à Christ. Fuir l'idolâtrie, c'est vivre ce texte de 1 Corinthiens 10, 31, que vous avez aussi ici à l'écran. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est avec l'aide de l'Esprit-Saint que ce matin nous allons méditer sur ce que signifie tout faire pour la gloire de Dieu, pour exalter Dieu. Alors nous avons commencé la dernière fois la série sur l'artisan de paix, et vous vous souvenez peut-être du passage biblique qui est revenu très souvent et qui est affiché tout au long de la prédication. Ça vous rappelle quelque chose? Ça a commencé par « heureux ». Heureux ceux qui procurent la paix, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous avons posé les fondations de l'artisan de paix en découvrant ensemble que l'origine, la motivation, la ressource, la manière et même la récompense de l'artisan de paix, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors d'où vient la paix? De l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi être un artisan de paix? À cause de l'évangile de Jésus-Christ. Où sont les ressources de l'artisan de paix? Où trouvons-nous les forces, les capacités? Dans l'évangile de Jésus-Christ. Et comment être un artisan de paix? En vivant l'évangile de Jésus-Christ, on commence à comprendre. Et quelle est la récompense de l'artisan de paix? Eh bien, le fruit de l'évangile de Jésus-Christ. Et en réfléchissant comment être un artisan de paix, nous avons abordé 4 E. Comme ça, on peut se souvenir plus facilement. 4 E qui vont guider nos réflexes, nos actions et suivre des étapes bibliques pour être un artisan de paix. Et je vous avais promis que nous allions étudier chacun de ces E séparément. Et nous allons le faire aujourd'hui en parlant du premier « e » qui était « exalter Dieu » ou « glorifier Dieu hein, » que nous allons aborder aujourd'hui avec le texte de 1 Corinthiens 10, 31. Et nous pourrions dire ceci à propos de notre premier réflexe de l'artisan de paix, c'est que ébloui par la grâce de Dieu, de comprendre qu'il nous a pardonné, qu'on est libéré, eh bien, nous avons plus de joie à le glorifier qu'à suivre nos vains buts égoïstes. C'est ça la motivation de l'évangile pour exalter Dieu. Les autres « e » que je vais dire rapidement maintenant pour déjà un petit peu nous les mettre dans la tête, le deuxième « e » que nous allons étudier la prochaine fois, c'est « enlever la poutre de notre œil », basé sur Matthieu 7, verset 5, où il est dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » On pourrait dire que on est motivé pour vivre ce deuxième « e » parce que nous comprenons que Dieu nous fait miséricorde. Et parce que nous comprenons que Dieu fait miséricorde, nous serons capables de demander pardon. Nous serons capables de voir nos péchés. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'il nous pardonne. Troisième action de l'artisan de paix, troisième « e hein, », exalter Dieu, enlever la poutre, et troisièmement, édifier dans la douceur. Et c'est le texte de Galates 6.1 qui va nous accompagner par la suite. Donc, frères, si un homme vient à être surpris d'une quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec douceur. Donc, quand nous comprenons et acceptons et bénéficions de la manière dont l'Évangile nous démontre notre péché, nous serons aussi incités à corriger et restaurer ceux qui ont mal agi avec douceur et miséricorde. Et le quatrième « e », c'est emprunter le chemin de la réconciliation, donc basé sur Matthieu 5, 24, qui nous dit « va, va, va ». Vous comprenez ? C'est pas « attends, va, te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande ». Et donc ce quatrième élément que nous verrons par la suite est motivé parce que lorsque nous nous réjouissons du pardon libérateur que nous recevons de Dieu, nous serons aptes à aller et pardonner aux autres de la même manière que Dieu nous a pardonné. Et tout un programme hein, basé sur l'Évangile, parce qu'au travers de l'Évangile, Dieu nous donne aussi bien le modèle que la motivation pour être des artisans de paix. Alors nous allons nous attarder aujourd'hui sur ce premier « e », exalter Dieu. Voilà, comme ça on va retenir cet élément. Exalter Dieu. Et le verset qui nous accompagnera sera toujours à l'écran devant vos yeux. Hein. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quoi que vous fassiez, ça englobe tout, hein. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui ce qui brise la paix. C'est vrai, les conflits sont en fait des occasions à saisir pour glorifier Dieu. Pas besoin de les chercher, ils viennent tout seuls, hein. Mais c'est des occasions à saisir pour glorifier Dieu. Nous allons ensuite parler de ce que signifie vivre en paix pour exalter Dieu. Et notre dernier éclairage nous amènera à avoir foi en Dieu pour faire le bien et exalter Dieu. Alors je suis conscient que ces prédications de cette série sont denses. J'en fais que 5, donc il y a beaucoup de choses dans ces prédications. Donc je vous encourage à avoir les petites feuilles, simplement aussi pour suivre. Si vous ne notez pas les réponses, il y a ici des feuilles avec les réponses que vous pourrez donc, après le culte, venir voir pour donc les prendre avec vous, qui vous aideront aussi à vous souvenir de toutes ces choses. Alors, quel est le premier réflexe de l'artisan de paix ? Premier réflexe, exaltez Dieu. C'est un réflexe, exaltez Dieu. Soit donc que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais commencer par une illustration, une histoire qui nous aidera à saisir le sujet de ce jour. Alors, cette illustration est assez longue, mais elle permet de bien saisir ce de quoi nous allons parler ce matin. Donc, juste pour le contexte, c'est une famille de 5 enfants, Franck qui est handicapé, sa sœur Sophie et ses 3 frères. La maman vient de mourir, Franck veut rester dans la ferme, alors que ses frères veulent vendre l'héritage qu'ils ont reçu. La situation est difficile. Sophie appelle son pasteur qui vient de suivre un séminaire sur l'artisan de paix et nous retrouvons les 3 frères et Sophie chez ce pasteur. Et je vous lis ce récit véridique. « Écoutez, pasteur, dit Jean, Je demande seulement que nous honorions la volonté de maman et que nous respections la loi. Elle et papa avaient décidé depuis longtemps de mettre l'argent de côté pour Franck et de diviser la ferme pour nous. En tant que liquidateur de la succession, il est de ma responsabilité d'honorer sa volonté. Je sais que ce serait un peu difficile pour Franck que de quitter la ferme, mais il y a de beaux appartements en ville, il s'y installera rapidement. Mais ça pourrait le tuer, dit Sophie. La perte de maman a été un drame pour Franck. Et si nous le forçons à quitter cette maison, il perdra tout ce qui lui est familier. J'ai peur des conséquences que cela pourrait avoir sur lui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Stéphane. On attend jusqu'à ce qu'il meure, puis on divise la propriété ? J'ai deux enfants à l'université, et si maman était là, je suis sûr qu'elle voudrait que la ferme soit vendue pour les aider à payer leurs études. Je suis d'accord avec Jean. Nous devrions honorer la volonté de maman et respecter la loi. J'apprécie votre respect pour votre mère et pour la loi, dit le pasteur Barry. Mais il y a autre chose à considérer. Chacun d'entre vous se dit chrétien. Alors, quelle est la différence entre la manière dont vous réglez ce conflit et la manière dont un bon athée, un non-croyant, la réglerait? Quelle est la différence? Après quelques minutes de silence de plomb, Jean répliqua « Je ne suis pas sûr de savoir où vous voulez en venir. » Je vais vous le présenter autrement. Qu'est-ce qui est le plus important dans tout cela? D'avoir votre argent le plus vite possible, comme la majorité des gens autour de vous, ou de manifester l'amour de Christ à votre frère? Ah, je vois, répondit Jacques. Vous voulez qu'on soit les bons petits chrétiens qui s'abaissent devant les autres et qu'on abandonne ce qui nous revient de droit? Non, ce n'est pas ce que je dis. Dieu aime la justice et il veut certainement que vous respectiez les souhaits de vos parents. Mais il y a quelque chose qu'il souhaite par-dessus tout. Voir que vous avez des relations les uns avec les autres qui manifestent la puissance de l'évangile en chacun d'entre vous. C'est bien, pasteur, répondit Jacques. Je ne vois pas en quoi la religion s'applique à ce problème. Si vous voulez réellement savoir, prions ensemble maintenant et demandons à Dieu de vous montrer comment vous pouvez résoudre ce problème de manière à l'honorer et à respecter la volonté de vos parents. Dieu répondit à leur prière d'une manière que Jacques n'aurait jamais soupçonnée. 3 semaines plus tard, après bien des réflexions et des démarches et recherches de solutions, et se demandant comment pouvons-nous plaire à Dieu et l'honorer dans cette situation, le tout soutenu par la prière, la famille tout entière se réunit dans une salle de restaurant local. Sophie avait réussi, par la grâce de Dieu, à apaiser les peurs de Franck et à le persuader de quitter la maison pour se joindre à la famille pour le dîner. 12 nièces et neveux le regardaient attentivement alors qu'il rentrait dans la salle et qu'il s'asseyait nerveusement au bout de la table. En tant qu'aîné, Jean demanda l'attention de tous. « Franck, la famille est aujourd'hui assemblée pour t'honorer, pour les 10 années que tu as passées à t'occuper de maman. Aujourd'hui, nous voulons t'offrir cette plaque. C'est écrit à notre frère Franck, le meilleur de tous les fils qui s'est occupé de maman par amour et sans répit. Ta compagnie a rempli sa vie de joie et de ravissement et ce fut un rappel constant de l'amour de Dieu, avec une profonde gratitude à notre frère de la part de Jean, Jacques, Sophie et Stéphane. Des larmes coulèrent des yeux de Franck lorsque Jean lui tendit la plaque. Avant qu'il ne parle, Jean lui tendit aussi une enveloppe. « Franck, continua-t-il, en remerciement pour tout ce que tu as fait pour maman, nous voulons te donner ce cadeau. C'est un accord que nous avons tous signé qui te donne le droit de rester dans la ferme. Cela signifie que tu peux y rester tout au long de ta vie. Nous avons trouvé un acheteur qui a bien voulu acheter le reste de la propriété. » La possession de la maison sera ensuite transmise à nos enfants. Mais tant que tu souhaites habiter là, nous voulons que tu saches que c'est chez toi. » Alors que Franck se saisissait de l'enveloppe, une muraille d'émotion s'effondra. Les mois d'incertitude, de peur, laissèrent place à des larmes de gratitude. Alors que Jean se pencha et prit son frère dans les bras, pour la première fois depuis des années, le plus jeune des fils de Jean se tourna vers sa sœur et murmura « Cela vient vraiment de Dieu, parce que papa n'aurait jamais fait ça de lui-même. » les situations de crise sont des occasions à saisir pour exalter Dieu. Sont des occasions à saisir. Et voici une première partie de l'artisan de paix éloquente que nous avons pu constater dans cette parabole moderne. C'est une histoire vraie aussi. Et je cite cette devise, ce début de devise qui dit ceci: « En qualité de peuple réconcilié avec Dieu par la mort et la résurrection en Jésus-Christ, nous croyons que nous sommes appelés à résoudre les conflits d'une façon nettement différente de ceux dont se sert le monde pour y faire face. Nous croyons également que les conflits donnent lieu à des opportunités de glorifier Dieu, de servir les autres et de grandir à la ressemblance de Christ. Par conséquent, en réponse à l'amour de Dieu et en s'appuyant sur sa grâce, nous nous engageons à répondre aux conflits en respectant les principes bibliques des quatre E. » Et le premier E, exaltez Dieu. Vous vous souvenez, hein? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que veut dire exalter Dieu? Que veut dire tout faire pour la gloire de Dieu? Et là, j'ai bien aimé, quelqu'un a dit ceci, c'est amener Dieu dans toutes les situations que nous vivons. Il est présent, on est d'accord, mais c'est que nous-mêmes soyons conscients, donc l'amener dans toutes les situations que nous vivons. Glorifier Dieu, exalter Dieu, c'est tourner l'attention vers, montrer, révéler sa perfection. Ce n'est pas chercher à voir qu'est-ce que nous vivons, c'est chercher à voir qu'est-ce que lui est en train de faire. Lorsque nous choisissons par sa grâce d'étudier, d'agir selon le plan de Dieu dans tous les domaines de notre vie, nous vivons pour sa gloire. Dans tous les domaines de notre vie. S'il y a une exception dans nos vies, nous ne vivons pas pour sa gloire. Et comment rendre gloire à Dieu? Comment l'exalter? Bien, premièrement, on le voit dans le psaume 3, 5 à 7, qui fait écho au psaume 37 qu'on a entendu tout à l'heure, en manifestant notre foi en Dieu. C'est ainsi qu'on le glorifie. On dit, mais nous, on croit que Dieu peut agir. On ne le voit pas encore, c'est vrai. On a vu cette famille, il se dit, mais comment Dieu va agir? Mais on croit qu'il va le faire. Il est dit dans Proverbe 3, verset 5, qui dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Nous sommes engagés explicitement à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. En fait, c'est ça le glorifier. C'est nous confier en lui et avoir confiance qu'il va agir. Deuxièmement, nous pouvons aussi l'exalter en lui obéissant. Dans Jean 15, il est dit ceci au verset 8: mon Père est glorifié en ceci. Voilà, c'est Jésus qui dit. Comment est-ce que Dieu est glorifié? Alors, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Troisièmement, nous pouvons exalter ou glorifier Dieu en... prenez Éphésiens 5. C'est aussi bien d'aller voir vous-même, hein. C'est important de voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Éphésiens 5, les versets 1 et 2, en gardant toujours Corinthiens, on y reviendra, mais Éphésiens 5, les versets 1 et 2, qui nous dit: soyez donc... Attention, écoutez bien ici. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Pourquoi est-ce qu'on imite Dieu? Parce qu'on est Dieu? Non. Personne ici n'est Dieu. Mais parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc nous allons lui ressembler pour avoir une ressemblance familiale. Donc soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Nous pouvons, quatrièmement, reconnaître Dieu pour le glorifier. Simplement le reconnaître, c'est-à-dire reconnaître aussi ce qu'il fait, reconnaître que c'est lui qui agit. Quand quelqu'un me dit « Waouh, mais j'ai réussi à faire un truc génial, j'ai réussi à réconcilier deux personnes. » Je dis « Attends, moi je suis content, ça c'est super. » Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est Dieu qui t'a donné cette grâce de le faire. Merci Seigneur, bravo, merci Seigneur. Et j'ai été ému de voir que Laurent a lu avant le psaume 115, qui fait écho à ceci, qui dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. » C'est à Dieu qu'on veut rendre gloire. Et là, on sera bien. Glorifier Dieu veut donc dire vivre en se posant régulièrement une question fondamentale. Les jeunes aiment bien les acronymes, les abréviations. Alors, je vous en donne une là. CPJPAD. Ça veut dire quoi? CPJPAD. Après, iPad. Hein. Donc, si vous avez un iPad, souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Donc, CPJ, comment puis-je? Comment puis-je? Et PAD, plaire à Dieu. Comment puis-je plaire à Dieu et l'honorer dans cette situation? Prenez votre iPad. I, donc c'est, en anglais, c'est moi, je. Hein. PAD, plaire à Dieu. Comment je plais à Dieu? Bon. Comment puis-je plaire à Dieu? Mais c'est ça notre question. C'est ça notre question fondamentale. Comment puis-je le plaire? Alors, réfléchissons un instant sur les conflits et nos réactions. Les conflits sont toujours une occasion de démontrer ce que nous cherchons ou ce qui est en nous. Et nous avons en fait trois grands groupes de réactions face aux conflits. Malheureusement, nous empruntons souvent une pente glissante qui nous fait pencher, par exemple, sur la simulation de la paix. En cherchant à nous échapper, à éviter, à nier, à fuir. Qui peut même aller, malheureusement, jusqu'à supprimer sa vie. Ce type de réaction mène à voir les conflits comme quelque chose à ignorer, à fuir comme la peste. Pas ce que la parole nous enseigne. Ou une autre réaction, c'est la réaction opposée, c'est le brisement de la paix. Il y a un conflit, on attaque, on oppresse, on agresse. Ça peut aller jusqu'au meurtre. Comme Jésus l'a dit, c'est vrai que ce n'est pas forcément physique. Ce type de réaction amène à voir les conflits comme une chance de gagner une cause égoïste. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il y a une troisième possibilité, c'est la recherche de la paix. En fermant les yeux parfois sur certaines choses, passer par-dessus des offenses, nous en parlerons par la suite, en discutant, en négociant, en cherchant la médiation, l'arbitrage, peut-être même la discipline de l'Église s'il le faut, toujours dans le même but, de la réconciliation et de la paix. Parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, donc nous allons aussi le vivre entre nous. Et c'est possible, parce que Dieu agit dans nos cœurs. Et ce type de réaction amène à voir les conflits comme une occasion de diriger l'attention sur la présence et la puissance de Dieu. La seule réaction qui exalte et glorifie Dieu se trouve dans ce troisième groupe, de celui qui cherche la paix. Et je vous assure que s'il y a une situation de conflit entre deux personnes, que des gens autour de vous ne connaissent pas l'Évangile, voient une réconciliation, mais c'est un puissant témoignage. Dieu a été réconcilié avec nous par Jésus-Christ. Et nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation. Les conflits sont des occasions à saisir pour exalter Dieu. C'est un moment approprié pour ressembler toujours plus à Christ. Et rappelez-vous, les conflits ne sont pas en dehors du contrôle de Dieu. Dieu est souverain. Donc si on est dans un conflit, ce n'est pas par hasard. Et Dieu veut que nous grandissions dans ces situations également. Alors, grandir à l'image de Christ, hein, vous connaissez sûrement ce texte de Romains 8:28, qu'on cite souvent, hein? Romains 8:28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. N'oubliez jamais le verset 29. Parce que le verset 29 va vous donner la clé pour comprendre. Qui dit, car, tiens, ce petit mot-là, c'est intéressant, ça relie à ce qu'il y a avant. Hein? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le but de Dieu, quand il fait toutes choses pour notre bien, c'est pourquoi? C'est pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. C'est là qu'on est heureux. ressembler à Christ, mais Christ, il était dans une paix que personne ne connaît, ou on la connaît un peu. Vous savez pourquoi ? Parce que Christ vit en nous. Aucun péché, rien à se reprocher, une vie parfaite. Dieu a prédestiné les élus à être semblables à son Fils, et il n'a pas prévu de nous donner plus de richesses, ou plus de matériel, plus de confort ou de bien-être. Ce n'est pas ça qu'il est dit dans Romains 8, 28. C'est notre ressemblance à Christ. Par les conflits, Dieu peut aussi exposer nos habitudes pécheresses dans nos vies, afin que nous puissions nous repentir. Et bien souvent, quand je l'ai remarqué, quand je me suis rendu compte que j'étais dans un conflit, les conflits, il ne faut pas avoir non plus des grandes choses. Hein. Ça peut être des petites choses. Hein. La brosse à dents à l'endroit, à l'envers, enfin, dentifrice, hein, ça peut être des petits conflits. Et qui peuvent nous montrer notre état de pécheur, pour que nous puissions nous repentir, être pardonnés, purifiés. Les conflits brisent aussi nos apparences, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment ce qui est dans notre cœur, hein, pour nous voir tels que nous sommes. C'est facile quand il n'y a pas de conflit, on peut jouer un jeu. Quand il y a un conflit, tout à coup, ça sort. Et là, ayons toujours ce réflexe. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu est manifestée pour nous par l'évangile de Jésus-Christ. Mais ressembler à Jésus, ce n'est pas simplement confesser son péché. C'est aussi puiser dans sa grâce et manifester une nouvelle attitude, de nouvelles habitudes. C'est ça, glorifier Dieu. Et que signifie maintenant vivre en paix pour exalter Dieu? C'est notre deuxième point. Vivre en paix pour exalter Dieu. Alors l'histoire que nous avons entendue au début nous montre la paix revenue dans cette famille. C'est magnifique. Il y avait les conflits, la paix est revenue. Cette paix a glorifié Dieu et quelque part nous fait envie de vivre de même. Nous avons beaucoup parlé de paix lors de la dernière prédication, enfin la première de cette série. Hein, on a vu qu'est-ce que c'était que la paix, etc. Nous avons vu clairement aussi que la paix ne se trouve pas en nous, ni en celui qui est en face de nous. La paix se trouve en Christ. Et nous n'allons donc pas maintenant faire un grand développement pour souligner cette notion de paix, mais j'aimerais souligner quelques éléments importants que nous n'avons pas encore abordés, tout en nous rappelant toujours que la paix vient de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, il y a la paix 3D. Vous connaissez la paix 3D ? Dieu dehors dedans. 3D, Dieu dehors dedans. Hein ? Premièrement, la paix avec Dieu. Pour exalter Dieu, il est clair que nous devons être en paix avec lui. Comment est-ce qu'on peut exalter Dieu, le glorifier, si on n'est pas en paix avec lui? Et cette paix, écoutez bien, cette paix nous est donnée par l'Évangile. Et là, allez dans vos Bibles à nouveau, dans Romains 5. Romains 5, il est écrit ici ce que je viens de vous dire, hein, que c'est Dieu qui nous donne la paix. Il est dit dans Romains 5 au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est à cause de lui qu'on a la paix. C'est grâce à lui que nous avons la paix. Extraordinaire. Il n'y a pas besoin de vous dire, moi je dois la créer cette paix. On n'y arrive pas. Mais il nous la donne. Premièrement, les 3D, hein, la paix avec Dieu. Ouais, deuxième dimension, donc dehors, c'est la paix avec les autres. C'est ça, dehors, hein, la paix avec les autres. Cette paix avec les autres vient aussi de l'évangile de Jésus-Christ. Et là, je ne vais pas prendre le texte maintenant, mais notez, Éphésiens 2, 11 à 18. Ben voilà, cet après-midi, Éphésiens 2, 11 à 18, vous pouvez aller le lire, ou ce soir. Qui vont vous montrer que c'est même Dieu qui nous donne la paix avec les autres. Et troisième dimension, Dieu, dehors, dedans. La troisième dimension, c'est la paix avec soi-même, dedans. Et cette paix, comme nous l'affirme Ésaïe au chapitre 26, vient de celui en qui on se confie. Il est dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. C'est Dieu qui nous donne cette paix 3D. Hein, vivre en paix avec Dieu, dehors, avec les autres, et dedans, avec soi-même, c'est glorifier Dieu. Et cela vient de l'Évangile. Et si ce matin, quelqu'un ici ne connaît pas la paix de l'Évangile, je vous en supplie, ne partez pas d'ici avant d'avoir trouvé cette paix. Et vous pouvez la trouver en la demandant à Dieu. à Dieu qui est venu parmi nous en Jésus-Christ pour que nous puissions recevoir cette paix. Comment le faisons-nous ? En reconnaissant nos péchés et en priant avec foi à Jésus-Christ qui va nous pardonner, il nous l'a promis. Souvenez du verset du jour ?
Oui, c'est facile, on l'a ici. Hein. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si ce verset vous habite toute la semaine, toute l'année, c'est génial.
C'est un réflexe, premier réflexe.
Et la question qui va avec, hein, CPJPAD, vous vous souvenez, hein, comment puis-je plaire à Dieu, hein, et l'honorer, ou bien comment puis-je vivre la paix 3D, hein, qu'on pourrait ajouter. Car savez-vous que la réputation, tenez-vous bien, la réputation de Jésus dépend de la paix entre nous. La réputation de Jésus dépend de la paix entre nous. La paix entre chrétiens est un élément essentiel de notre témoignage. Comment pourrions-nous témoigner de la paix que Dieu donne en Jésus-Christ si nous ne sommes pas en paix les uns avec les autres? Comment est-ce que vous pouvez dire aux gens, mais Dieu nous donne la paix, et puis on est en guerre avec notre frère en Christ? Ah, moi j'aime ça. Jésus a prié pour nous. Ah, ça c'est tellement rassurant. Jésus a prié pour nous. Il a prié pour l'unité des chrétiens en Jean 17. Il nous a aussi dit que chacun reconnaîtrait que nous sommes ses disciples à l'amour que nous nous manifestons. Donc lorsque nous réglons ces conflits, lorsque nous vivons dans l'amour les uns avec les autres, il nous promet même que les autres le reconnaissent. Et faisons-le de manière à glorifier Dieu, afin qu'il reconnaisse que ça ne vient pas de nous, que ça vient de Christ, qu'il soit attiré par lui. Une petite histoire. C'est bien les histoires, ça aère un petit peu et ça nous aide à comprendre ceci. Hein? Donc, nous avons l'histoire de Ken qui a invité une amie à venir au culte. Et là, ce jour-là, le pasteur surprit tout le monde en demandant à un ancien de s'approcher. À ce moment-là, Ken se souvient en fait que le pasteur et cet ancien ont eu une dispute publique la semaine précédente. Alors, en fait, Ken, il voulait déjà amener quelqu'un depuis longtemps à l'église et enfin, ce dimanche, il avait réussi à amener quelqu'un à l'église pour qu'il entende l'évangile et puis voilà que son pasteur allait soulever un problème. Alors le pasteur, en accord avec l'ancien avec qui il s'était réconcilié, demandait pardon à l'église en ces termes. « Nous devons vous dire combien nous sommes désolés d'avoir brisé l'unité de cette église et nous vous demandons pardon pour le mauvais exemple que nous avons donné la semaine dernière. » Alors Ken, à sa place, à côté de cette personne qu'il avait amenée, voulait montrer une église où tout allait bien et il espérait que son ami avait oublié cet incident en fait, du début de culte. Mais en la ramenant chez elle, après le culte, elle lui dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'un pasteur ait reconnu son péché et ait demandé pardon. Ayant vu la puissance de l'évangile dans la vie de ce pasteur, elle avait envie d'entendre parler du salut et de la liberté qu'elle pourrait avoir en mettant sa foi en Jésus-Christ. La réputation de Jésus dépend de la paix entre nous. Vivre en paix, exalter Dieu, sont des outils puissants pour témoigner de Dieu. Et c'est de connaître Dieu, avoir foi en lui, de faire le bien à sa suite. Et c'est notre dernier point, avoir foi en Dieu et faire le bien pour exalter Dieu. Quelqu'un a dit, plus vous comprenez l'amour et la puissance de Dieu, hein, plus vous comprenez l'amour et la puissance de Dieu, plus il est simple d'avoir foi en lui. C'est vrai. Si vous pensez que quelqu'un ne peut rien faire, on n'a pas tellement envie de se confier à cette personne. Si on sait que cette personne peut tout faire et qu'elle est pleine d'amour, ça stimule la foi. Et plus vous avez foi en lui, plus il est simple de faire sa volonté. Parce que vous savez qu'il veut que votre bien. Dieu est souverain. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont eu foi en Dieu malgré des épreuves très difficiles. Un exemple, l'exemple le plus flagrant, Jésus, devant la mort, à Gethsémané, a dit ceci à Dieu, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ou Paul, en prison, en souffrant, a dit ceci, « Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et pourquoi Jésus, Paul et tant d'autres ont eu foi en Dieu ? parce qu'ils sont totalement convaincus que Dieu contrôle tout dans leur vie. Ils croient en la souveraineté de Dieu. Jésus n'est pas mort parce que Dieu avait perdu le contrôle. Non, Dieu n'avait pas perdu le contrôle. Mais il sait que Dieu a tout pouvoir sur toute chose et n'enlève pas notre responsabilité. Et le fait que Dieu est souverain, il sait aussi tout. Et le fait que Dieu est souverain doit plutôt nous motiver à vivre d'une manière qui est juste. Pourquoi ? Parce qu'en étant souverain, en connaissant tout, il nous a dit dans Matthieu 12, par exemple, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Waouh ! Il connaît tout. Donc ça motive quand même, en sachant qu'il connaît tout, de ne pas entrer dans ces paroles vaines, que Dieu nous aide. La connaissance de la souveraineté de Dieu devrait nous rendre encore plus responsables. Certains disent, ouais, quand on croit à la souveraineté de Dieu, on se dit, non, on ne fait plus rien. Mais c'est faux, c'est tout l'inverse. En sachant que Dieu a tout en contrôle, qu'il connaît toutes choses, on est encore plus motivé parce qu'il connaît toutes choses. Parce qu'il est en contrôle de toutes choses et que nous sommes dans cette responsabilité de vivre d'une manière à lui rendre gloire. Nous exaltons donc Dieu en ayant foi en ce Dieu souverain. C'est une motivation, cette souveraineté. Et non seulement Dieu est souverain, et puis là, heureusement, il est également bon. Hein, nous avions vu lors de la prédication sur le psaume 62, je ne vais pas reprendre tous ces éléments, mais que la bonté de Dieu n'est pas liée aux circonstances, mais à son caractère. C'est pour ça qu'il est toujours bon. Si c'était lié aux circonstances, on n'arriverait pas à le voir. On se dit, mais est-ce qu'il est vraiment bon dans cette situation difficile ? Non, sa bonté est liée à son caractère qui est immuable, qui ne change pas. C'est vrai que pour nous, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est même bien pour nous, parce qu'on a une vie limitée. On ne voit pas devant, on ne voit pas dans une année, dans 2 ans, dans 10 ans, on ne le voit pas. Là, il y a un texte clé qui permet de comprendre plusieurs choses, Deutéronome 29, 28, qui dit ceci. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. » Savez-vous ce que vous ferez demain ? Dans 5 ans, dans 10 ans ? Elles sont cachées pour vous maintenant. Elles appartiennent à Dieu. Et on va lui faire confiance. Mais ce n'est pas fini. Ce verset nous dit « Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous le mettions en pratique. » En fait, ce passage nous donne la clé pour affronter fidèlement les situations parfois douloureuses et même injustes. Dieu ne nous dira peut-être pas tout ce que nous voulons savoir sur les événements douloureux de la vie, mais il nous a déjà dit ce que nous devions savoir. C'est pourquoi, au lieu de perdre notre temps et notre énergie à comprendre les choses qui sont hors de notre compréhension, nous devons nous tourner vers les promesses et les instructions que Dieu nous a révélées. En connaissant que Dieu est souverain et bon, nous allons faire le bien. Et c'est cela, exalter ou glorifier Dieu. Il est beau de savoir que Dieu tient tout dans sa main, qu'il balise même les chemins. L'exemple de Joseph est un des plus magistrats dans la Bible. Il a fait le bien pour ses frères. Il a pris soin d'eux, alors qu'il l'avait maltraité. Donc il l'avait maltraité, vendu, vous connaissez l'histoire de Joseph en Égypte, etc. Quand ils viennent, ses frères, ils sont éprouvés, c'est vrai, mais il a pris soin d'eux, d'une manière extraordinaire. Et dans Genèse 50, lisez avec moi, Genèse 50, premier livre de la Bible, Genèse 50, nous voyons là une foi extraordinaire en un Dieu souverain et bon, malgré des situations difficiles, injustes. Joseph a vécu des choses qui étaient mais injustes. Et voici ce que lui-même dit dans Genèse 50, au verset 19. Donc quand il dit à ses frères qui, donc le père était décédé, les frères commencent à avoir peur parce qu'ils se rendent compte, attention, si Joseph nous redonne tout ce qu'on lui a fait de mal, on est vraiment mal. Puis ils ont demandé à Joseph d'être bon avec lui. Et voici ce qu'il répond. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Ici, Joseph est après. La foi que Joseph démontre ici, il l'avait déjà avant, dans la situation difficile. Que Dieu nous donne la grâce que pendant la situation difficile, nous puissions déjà avoir cette foi. Après, c'est vrai que c'est plus simple parce qu'on voit en arrière. Pendant, c'est dur. Donc on a besoin des uns et des autres pour nous encourager, pour prier pour cela. Et Joseph nous montre un exemple. Il a vécu d'une manière à glorifier Dieu. Alors, il n'avait peut-être pas ce CPJPAD en tête, hein, mais je pense qu'il avait dans son cœur cette même notion. Comment puis-je plaire à Dieu? Et, ou même cette notion, ce verset n'était pas encore écrit du temps de Joseph, mais c'était le même Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous arrivons à la conclusion. Que feras-tu avec tout ce que tu as entendu ce matin? Alors le premier réflexe de l'artisan de paix, le premier E, on se souvient? Exaltez Dieu. Exaltez. Premier réflexe, exaltez Dieu en toutes circonstances. On peut parler de temps de conflit, mais il n'y a pas besoin d'un conflit pour exalter Dieu. Exaltez Dieu, que ce soit un réflexe. Que dans chaque situation que nous allons rencontrer aujourd'hui, demain, cette semaine, nous puissions nous poser cette question. CPJPAD, oh, ça on arrive à se retenir. CPJPAD. Hein. Comment puis-je plaire à Dieu? Comment puis-je l'honorer dans cette situation? Et j'aimerais vous lire le serment de l'artisan de paix sur ce premier réflexe. Je vais vous le lire deux fois. Voici ce qu'il est dit dans ce serment, qu'on peut aussi, cet engagement, peut-être mieux dit, que nous pouvons prendre, si nous le désirons, pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Alors, il dit ceci, et vous l'avez sur vos feuilles si jamais, à la fin. Au lieu de focaliser sur nos propres désirs et de nous arrêter sur ce que les autres devraient faire, nous chercherons à plaire à Dieu et à l'honorer. En comptant sur sa sagesse, sur sa force, sur son amour, en obéissant fidèlement à ses commandements et en cherchant à garder une attitude d'amour, de miséricorde et de pardon. Tout ça parce que nous savons que Jésus nous réconcilie avec le Père. Je relis ceci et ensuite nous prions. Au lieu de focaliser sur nos propres désirs, de nous arrêter sur ce que les autres devraient faire, cherchons à plaire à Dieu et à l'honorer en comptant sur sa sagesse, sur sa force, sur son amour, en obéissant fidèlement à ses commandements et en cherchant à garder une attitude d'amour, de miséricorde et de pardon. Prions.